Votre invitée à présent, Patricia, c'est la comédienne Irène Jacob. Faut-il rappeler qu'elle a été révélée au cinéma par Louis Malle, qu'elle a joué dans plusieurs films de Kieslowski, notamment La double vie de Véronique. Eh bien, Irène Jacob, vous venez de publier votre premier roman Big Bang, paru aux éditions Albin Michel.
Oui, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonjour.
Merci, bonjour Patricia.
Dans la tempête, je fais le nid, écrivez-vous. Ce livre, en le lisant, on s'est dit qu'il vous fallait l'écrire. C'est un appel dans la nuit entre deuil et promesse de vie.
Oui, c'est vrai, c'est un moment en tout cas où je m'adresse à deux présences qui ne sont plus là. En fait, je joue à ce moment-là en fait la voix humaine de Cocteau, où je suis une amoureuse qui m'adresse à son amant et qui n'est pas là. Et je me suis dit, voilà, cette adresse à l'absence, à l'invisible, elle se pourrait se manifester dans ce moment de deuil envers mon père qui est parti et au moment où j'attends mon fils qui va venir. Et évidemment, il y a l'absence et pourtant une présence manifeste, intense. Et puis un moment, des moments où se définit dans la vie d'une façon tout à fait particulière, par nécessité, d'une façon très forte. Et on doit appeler, on doit rassembler, on doit se redéfinir, on doit se recentrer et on doit reconvoquer aussi tout un beaucoup de souvenirs, beaucoup de force. Alors mon père était physicien quantique et donc c'est vrai que
c'est pour ça que ça s'appelle Big Bang.
Voilà, ça s'appelle Big Bang parce que j'avais envie de parler effectivement de l'origine. Eux travaillaient sur l'origine de l'univers, sur le évidemment un
travaillaient au CERN.
Voilà, au CERN où j'ai grandi d'ailleurs, juste à côté du grand accélérateur de particules. Et puis je compare presque ce ventre qui devient laboratoire.
Un accélérateur de particules, non, c'est un peu la même chose.
Et puis voilà, ce monde de l'univers où il n'y a plus de temps, où il y a des forces faible, de la matière cachée, des trous noirs, des cœurs qui s'effondrent. Enfin, voilà tout un vocabulaire très évocateur qui m'impressionnait beaucoup enfant, même si je n'y comprenais rien, n'étant pas scientifique. Mais je pouvais comprendre que finalement, l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Et si c'est une chose qui est assez banale aujourd'hui, c'est quand même merveilleux de penser que l'intime peut rejoindre le plus large, les autres, les confins du cosmos.
Ce père tant aimé est mort après 5 ans de maladie, un mois d'un temps un petit peu où il allait un petit peu mieux, donc on peut dire qu'il est mort quand même brutalement d'une certaine manière. Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire que vous attendiez un bébé ?
Alors, dans ma vraie vie, mon père est mort en fait 2 ans après la naissance de mon fils.
D'accord.
Et quand j'ai commencé à vouloir raconter ce moment de vie où on se définit d'une façon forte, je me suis dit d'abord il faut commencer par le deuil et aller vers la naissance, puisque c'est comme ça que ça se passe dans la vie. On est tous traversés de deuil et de séparation et on va vers la vie. Et un deuil échappe à toute notion de temps. Je n'ai eu aucun mal à me replonger dans ce moment de deuil et d'y retrouver ces sensations, de même que je n'ai eu aucun mal, j'avais bien sûr des carnets où j'avais pris des notes de ces moments de grossesse, à retrouver ces sensations de transmission où tout d'un coup on va convoquer à nouveau la vie, avec le mystère de sa propre naissance bien sûr, et puis la charge affective de tous les bras qui nous ont portés et dont nos bras se trouvent chargés et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va transmettre.
Ce sont parfois les enfants qui posent les questions finalement les plus profondes. C'est triste de mourir et on va où quand on meurt, vous demande votre fils aîné. Et un autre enfant de la famille, c'est la fille en fait, la petite fille Jade de votre compagnon, demande elle, c'est où est-ce qu'on est avant de naître ?
Voilà, c'est les grands mystères. On appartient à un grand mystère. D'ailleurs, les physiciens disent qu'ils ne connaissent que 5% de la matière dont est composé l'univers. Et donc, c'est bien peu. Si on peut trouver que ce sont des extrêmement grands scientifiques, on remarque aussi à quel point ils savent ce qu'ils ne savent pas et à quel point ils le précisent. Et là, on ne sait plus très bien. Eh bien, nous, avant la naissance, on ne sait plus très bien. On ne sait même pas, on ne se souvient pas qu'on a été dans un ventre. Ma mère me dit, je ne me souviens même plus de mes grossesses. Et moi, je ne me souviens pas avoir été dans son ventre. Mais voilà, on sait bien que la vie est passée par elle. Et où est-ce qu'on est avant de naître ? Est-ce qu'on peut choisir sa famille ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait si on veut dire quelque chose ? Posent mes enfants. Effectivement, ce sont des mystères. Et je trouve ça fabuleux qu'on vive au quotidien avec la densité et la dimension de ces mystères.
Il y a de très belles scènes avec votre maman que vous venez d'évoquer. Vous cherchez des forces, y compris dans vos faiblesses. Et pour ça, vous vous reliez à d'autres personnages, notamment à d'autres femmes de la famille, des hommes aussi. Je pense à votre oncle Roland, professeur de gymnastique, qui vous a montré finalement peut-être le chemin des mots et la traversée des mots dans le corps. Mais pour en revenir aux femmes, il y a vos deux grands-mères.
Oui. Alors, à travers mes grand-mères, raconter effectivement, tout d'un coup, au moment de donner naissance, on convoque de nouveau à ce moment-là, alors qu'on croit qu'on est vierge dans la vie, qu'on avance comme une page blanche, et puis il y a des moments où tout d'un coup on raconte que non, on est chargé. On est chargé de non seulement 3 milliards peut-être d'années derrière nous, on est fait de poussière et d'étoiles, mais on est fait aussi de l'amour qui a pu s'exprimer comme il le pouvait par les personnes qui nous ont portés. Et cet amour, bien sûr, chacun aimerait pouvoir le donner de façon libre. Et pourtant, c'est bien compliqué. On est soi-même face à des deuils, à des séparations, à des maladies. Et voilà, il faut quand même qu'on soit là. Qu'est-ce que c'est que la solidité des bras maternels? Comment est-ce que ça se manifeste? Et comment ça, ils sont aussi fragiles?
Vous avez joué des rôles, on peut dire, très jeune. Vous imitiez vos grands-parents. Et à l'âge de 10 ans, vous saviez la tirade du nez de Cyrano.
Bon, c'est une façon de raconter un petit peu comment les mots sont passés par là. C'est vrai que je vais parler des poèmes. Je raconte la beauté de Baudelaire comme justement aussi une maternité où le poète est en face de ce sein de pierre où il se cogne. Et il aimerait que cette beauté exprime des larmes ou des rires. Et elle a l'air d'avoir un cœur de neige et il ne sait pas comment faire, mais il se perd dans ses yeux maternels, voilà, dans la beauté de la clarté de ses yeux éternels. Et voilà, donc c'est vrai que la façon dont les mots, on s'en empare quand on est enfant sans les comprendre, mais petit à petit, ils nous rattrapent. Et je trouve ça si beau d'entendre un enfant de 5 ans dire un texte qu'il ne comprend pas. Et pourtant, le sens passe quand même à travers sa voix, à travers son corps. On ne sait pas comment. Ça aussi, on est de nouveau dans le témoignage manifeste d'une force invisible qui nous dépasse et qui fait qu'on en sait tellement plus et tellement moins que ce qu'on croit.
Votre père s'entendait bien avec Christophe Kieslowski. Ils se sont connus. Kieslowski, dont vous êtes indissociable, et qui disait, quand elle devient trop explicite à propos d'une scène, je coupe.
Voilà. J'ai fait beaucoup de portraits de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Là, c'était pas l'objet de ce livre. Et pourtant, je me disais, je peux pas parler de ce livre sans évoquer Christophe Kieslowski. C'est vrai qu'on était passé par le CERN et il avait visité donc ce monde de l'infiniment grand et infiniment petit et d'invisible. Et puis il avait dit à mon père, moi au cinéma, puisque c'était aussi un grand cinéaste de l'invisible et puis aussi de l'infiniment petit, puisque sa caméra était comme un microscope. Voilà, il disait, moi quand c'est trop explicite, je coupe. Et mon père, qui adorait les citations, trouvait ça magnifique parce que de toute façon, dans la science, il y a tellement peu de choses qu'on comprend et on se trouve toujours face à la grande énigme. Mais cette énigme n'est jamais simplifiée. Elle est au contraire gardée dans toute sa densité, dans toute sa nuance.
Merci Irène Jacob. Big Bang, c'est donc votre premier roman. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est chez Albin Michel.
Merci beaucoup.